RFI, grand reportage, Laurence Adou.
C'était le 24 avril 1915. La police de l'Empire ottoman arrête les intellectuels arméniens de Constantinople. Cette rafle donne le coup d'envoi du génocide du peuple arménien, accusé de comploter contre le gouvernement de l'époque. 1,5 million de personnes périssent, massacrées sur place ou déportées dans le désert syrien par les soldats turcs. Les survivants fuient l'Empire et beaucoup se réfugient en France. Et Marseille est leur port d'entrée en France. Un siècle plus tard, le drame du génocide, toujours nié par la Turquie, ne cesse de hanter la communauté arménienne, estimée aujourd'hui à Marseille à 80 000 personnes. Les Arméniens de Marseille, gardiens de la mémoire, un grand reportage d'Anna Picarac, Anna que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Les premiers 400 rescapés du génocide sont arrivés à Marseille en novembre 1922, à bord du navire Tourville. D'autres ont suivi. Et au total, plus de 60 000 Arméniens ont débarqué dans les années 20 dans le port de la cité phocéenne. Certains ne vont pas y rester et partiront tenter leur chance dans la vallée du Rhône et jusqu'à Paris. Mais beaucoup choisiront de refaire leur vie à Marseille. Jeunes et sans ressources, ils sont regroupés d'abord dans des camps de fortune. Après, dès qu'ils le peuvent, ils s'organisent, bâtissent leurs maisons et édifient leurs églises. Nous sommes à Saint-Jérôme, le quartier historique de la diaspora arménienne. Christian Artin, petit-fils de survivants du génocide, nous accueille au siège de l'Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne, ARAM, située au cœur de ce quartier.
Ce quartier a été à 50% construit par les réfugiés arméniens qui ont bâti leur maison, leur église, des commerces. Donc l'association ARAM est installée dans ce quartier depuis presque 20 ans.
Dans les murs d'un ancien atelier de chaussures, je crois.
Tout à fait, un ancien atelier de chaussures de cordonniers arméniens qui était typique de l'activité que les réfugiés ont eue à leur arrivée en France. La confection aussi, et puis d'autres métiers. Je vous invite à me suivre. Il y a une bibliothèque de consultation où il y a environ 7000 livres aujourd'hui. Les grands-pères, les grands-mères qui étaient ouvriers, ouvrières, quand ils rentraient à la maison, la première chose qu'ils faisaient quand ils ne s'occupaient pas de leur enfant, c'était d'ouvrir un livre, de se cultiver, d'arriver comme ça à être des érudits autodidactes. Et c'est des livres qui abordent absolument toute matière. Alors évidemment, il y a une grosse partie de livres de souvenirs. Puis après, des chroniques, des histoires, et beaucoup, beaucoup de dictionnaires et de manuels pour apprendre à parler français. On sent vraiment le besoin de vraiment s'intégrer à la France et de casser la barrière du langage. Et on a également un fonds de presse quotidienne et de périodique qui est très, très important.
Presse de l'époque aussi.
Presse de l'époque, oui. On fait également de la conservation de disques, de vinyles, de 45 tours et surtout de 78 tours parce qu'il y a eu une très très importante production de musique arménienne qui a été faite par les artistes réfugiés arméniens et vous voyez également qu'il y a toute une partie qui est une partie de documentation qui regroupe des milliers de documents sous forme d'iconographie, de photographie, de courriers, des registres de certificats de baptême et d'actes de naissance qui ont été dressés à cette époque par les organisations arméniennes d'alors en France. Et ces papiers que les réfugiés récupèrent à leur arrivée en 1922-1925, c'est très important parce qu'on y retrouve le nom de son père, le nom de sa mère, le nom du prêtre qui vous a baptisé. Des informations qui sont très importantes pour des personnes qui sont orphelines. Ils vont retrouver leur nom et leur prénom, souvent une photo d'identité qui marque leur entrée en France et le départ d'une nouvelle vie. Et j'ai beaucoup d'émotions avec ça parce que faut s'imaginer ces gens qui ont tout perdu et qui trouvent en France, en fait, le moyen de se reconstruire grâce à elle.
Ils ont pu se reconstruire, trouver du travail, fonder des familles et réussir dans le pays d'accueil. Pour ne pas traumatiser leurs enfants et petits-enfants, ils ne parlaient pas du passé. La barbarie, les assassinats, la déportation étaient des sujets tabous. Parfois, vers la fin de leur vie, ils acceptaient de témoigner. Et c'est petit à petit et par bribes que Michael Vémian et Seta Biberian ont appris une partie de l'histoire de leur famille décimée.
Mes arrière-grands-parents vivaient à Izmir, au bord de la mer Égée. ils se sont sauvés en se jetant à l'eau. Le problème, c'est qu'ils étaient séparés, ils étaient dans le port et ils ne se sont pas retrouvés. Izmir, c'est un grand port, et il y avait d'autres bateaux européens. Il y avait des Italiennes, des Grecs. Mon arrière-grand-père, il allait être fusillé par une barque turque. Et il a eu la présence d'esprit pour se sauver, de dire « Italiano, Italiano ». Ils l'ont pas tué. Il se fait recueillir finalement par un bateau italien, oui. Il arrive au Pirée, il a perdu sa femme. Pour lui, elle est morte ou elle a disparu. Il erre 3 jours sur le port du Pirée comme ça et par miracle, il retrouve sa femme. Qui avait été sauvée, elle, par un bateau anglais, je crois.
Écoutez, je vais vous raconter une histoire toute simple. Mon arrière-grand-père maternel était orfèvre dans le grand bazar d'Istanbul. Un jour, il a vu arriver un client un turc qui lui a montré un collier et qui lui a dit « Toi qui es maître orfèvre, peux-tu me dire en quoi est fait ce collier ?» Mon arrière-grand-père a pris ce collier, il l'a regardé, il était composé de petites boules serrées les unes contre les autres. Il a dit « Non, je ne sais pas ». La personne qui était en face de lui lui a dit « Tu ne sais vraiment pas ? Regarde bien ». Donc il a regardé, il dit « Vraiment, je ne sais pas ». Et il lui a dit « Ce sont des tétons de femmes ». Et cette histoire qui est violente, hein, et qui est une des mille et une histoires extrêmement violentes qu'on a pu entendre les uns et les autres, en fait, je l'avais oubliée, parce qu'on n'a probablement pas envie de garder ce genre de choses en mémoire. Et elle a ressurgi il n'y a pas très longtemps. Il y a quelque chose qui s'est imposé en moi. J'ai choisi d'aller à Istanbul pour le 24 avril. Il m'a semblé que ma place était là-bas et qu'avec moi, j'amenais aussi mes ancêtres.
Les plus jeunes aussi restent fidèles à la mémoire de leurs ancêtres. Les élèves de l'école franco-arménienne de Marseille, la 5e génération des descendants d'exilés, se préparent à commémorer le centenaire du génocide.
En fait, ça concerne le 24 avril, c'est une chanson qui rend hommage aux victimes et ça décrit en quelque sorte notre histoire. On a été massacrés, on a été sous la domination de plusieurs États.
1,5 million de morts sont maintenant en quelque sorte des saints. Ils nous surveillent de là où ils sont.
L'école bilingue Hamaskaïn se trouve à Beaumont, un autre quartier arménien de Marseille. Créée il y a 35 ans par Seta Biberian, elle accueille aujourd'hui 350 élèves. Toute la scolarité, de la maternelle jusqu'à la terminale, se fait dans les deux langues.
Notre objectif, c'est que l'élève puisse être nourri par la langue et la culture arménienne et que le jeune adulte qui sort de nos établissements soit pleinement épanoui en tant que français qu'il est et l'arménien qu'il est aussi. Cette coexistence de deux ouvre en fait à beaucoup plus que ça. Moi je le trouve extraordinaire quand je vois arriver des petits gamins à l'école, des petits boutchous qui ont 3 ans et qu'on commence à les voir chanter en arménien, chanter en français, dire une comptine dans une langue et puis une autre dans une autre. Et quand on voit aussi qu'on arrive aux années lycée avec des élèves qui peuvent aussi bien réciter un poème de Siamanto par exemple qu'un autre de du Bellet, de Baudelaire, tout cela, c'est une richesse incroyable et ça vous rend fort. Ça rend nos élèves forts surtout.
Je m'appelle Chunim. Vos jamerun hashiva bahem. On est normal inch rokud.
Là, je m'appelle Marie. Grâce au projet mené par l'école, projet de l'arbre généalogique, on a pu en apprendre un peu plus chacun à propos de l'histoire de notre famille. Moi, je suis née en Arménie, donc je pensais que toute ma famille venait que de l'Arménie actuelle. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le père de mon grand-père était né en Turquie actuelle. Et donc, au fur et à mesure, après le génocide et la déportation, ils se sont retrouvés en Arménie, puis sont revenus en France, ils sont repartis en Arménie. Et enfin, on est revenu en France en 1998.
Mon prénom, c'est Azad. Nos parents nous ont transmis beaucoup de choses concernant nos origines, la langue, bien évidemment. Après, il y a des parents qui n'ont pas eu le potentiel pour apprendre tout ça à leurs enfants. Donc, on a la chance à Marseille d'avoir des centres culturels arméniens. Ça permet de transmettre Tout le savoir-faire arménien, c'est quelque chose de très important pour nous, pour qu'on puisse nous-mêmes le transmettre à la génération future.
Et des associations fleurissent partout dans la diaspora. À leur arrivée à Marseille, les Arméniens en avaient fondé une cinquantaine. Elles apportaient une aide matérielle aux réfugiés, servaient d'intermédiaires avec les autorités françaises, créaient des écoles, des lieux de culte et des centres culturels. Aujourd'hui, elles se donnent surtout pour but de sauvegarder l'identité arménienne. Dans le riche paysage associatif marseillais, la jeunesse arménienne de France tient une place particulière. Fondée en 1945, en hommage à Missak Panouchian, un résistant arménien fusillé par les nazis, elle transmet aux nouvelles générations l'essentiel, la langue et la culture arménienne. C'est un collectif de bénévoles rassemblés autour de Noune Karapetian, la seule permanente de l'association.
Bon, là, il y a le premier groupe, ce sont des enfants qui viennent pour faire la danse, la musique et la langue aussi. Ils ont le cours de langue maintenant. Dans une heure, ils auront leur cours de danse. Et après, certains vont rester pour la musique, la chorale. Et ceux qui ne font pas la musique, ils partiront à la maison. Voilà.
Gabriel suit les cours de doudouk, la flûte arménienne. Son professeur, Mikael Vemian, dirige l'école de musique au sein de l'association.
Allez, on se met debout. On va s'accorder avant, Gabriel. On va s'accorder. Donne-moi un do, joue-moi un do. La musique, elle est dans chaque foyer, en fait. Que ce soit ici ou en Arménie. En Arménie, par exemple, faut savoir que dans chaque maison, il y a un piano. Et après, la musique traditionnelle est très développée. Au travers d'instruments emblématiques comme le doudouk, on dit que c'est l'âme de l'Arménie. C'est un instrument qui est fabriqué en bois d'abricotier, parce que l'abricotier, c'est un arbre qui dont l'origine est d'Arménie. C'est un instrument qui est très ancien. Il existe des fresques de 3000 ans où on retrouve déjà l'instrument. Il est resté dans sa facture et est resté très très simple. Du coup, la justesse de l'instrument, elle provient uniquement du musicien. C'est-à-dire que, en gros, quelqu'un qui n'entend pas juste, qui chante faux, qui peut pas jouer. C'est un peu l'équivalent du violon. C'est pas un piano, on appuie sur une touche, la note est juste. Bon, c'est le musicien qui va donner la justesse de la note.
Et pendant qu'à l'étage du centre, les jeunes apprennent le doudouk, le canon, le violon ou la percussion, dans la grande salle du rez-de-chaussée, la chorégraphe Marion Chamassian répète avec un groupe d'enfants une danse traditionnelle.
Allez, en place, les mains à la taille, jolie, propre, pieds serrés.
La danse arménienne, elle exprime l'attachement à nos racines, l'attachement à la terre, l'identité du peuple qui a connu des guerres, qui a dû se défendre. On est quelquefois filles et garçons tous ensemble dans un kochari réuni où on symbolise la fierté. Et puis on est également avec des danses séparées. Les filles qui expriment une espèce de dignité toute féminine et après des danses très masculines, très très fortes. Chaque arménien, au moment où il danse, il est porteur des valeurs de l'identité et du chemin parcouru de ce peuple.
L'art, la musique et la danse font partie de l'âme arménienne. Ils disent ce qui ne peut pas être dit avec les mots. La douleur, le déracinement, la colère, mais aussi la joie et l'espoir. Pour Pascal Chamassian, président du bureau marseillais du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, ce sont des preuves de vie du peuple arménien.
C'est par la culture qu'on répond à celui qui a voulu nous éradiquer, nous effacer. Un siècle après, c'est par la danse, par la musique qu'on répond sans haine, mais juste pour dire que notre âme et notre culture nous a permis de survivre, qu'on est encore là et qu'on sera encore là pour longtemps. Mais tout ça avec le sourire et encore une fois sans aucun mépris. Moi je n'ai aucune haine envers le peuple turc. Le peuple turc aujourd'hui est l'héritier d'un gouvernement qui a commis l'irréparable. J'en veux beaucoup au gouvernement turc d'aujourd'hui de ne pas tout simplement se mettre en conformité avec son histoire. Malheureusement pour le gouvernement, heureusement pour nous, alors qu'il pensait, ce gouvernement, que le temps allait effacer les mémoires, eh bien c'est tout l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, le peuple turc se réveille parce qu'on est à l'ère de la mondialisation, parce qu'on est à l'ère de l'internet, parce que tout se sait, parce qu'aujourd'hui, il y a des Arméniens en Turquie qui avouent avoir été islamisés, et ça, ils le disent un siècle après. Et le gouvernement turc ne pourra pas s'en sortir. Il avait le poids de la diaspora, qui était là pour lui rappeler la vérité. Et aujourd'hui, il a au sein même de son peuple des gens qui se lèvent et qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Moi, en fait, je suis d'origine arménienne, mais mon grand-père ou ma grand-mère a été islamisé. La Turquie sera obligée de reconnaître cette tâche de l'histoire. Elle n'aura pas d'autre solution.
Ça vous dit quelque chose? Le refrain, il fait « Sœur,
le génocide a 100 ans, le déni turc a 100 ans, mais la mémoire des Arméniens a aussi 100 ans et elle continue à vivre, partout où ils avaient été dispersés, à Marseille et ailleurs à travers le monde. Les Arméniens de Marseille, gardiens de la mémoire. Un grand reportage d'Anna Piekarek, réalisation de Jérémy Besset.
Votre reportage nous a conduit, on l'a vu, à Marseille, où vit une importante communauté arménienne. Mais les Arméniens sont aussi nombreux dans plusieurs autres villes françaises.
Oui, Laurent, la communauté arménienne compte aujourd'hui en France environ 600 000 personnes, dont près de 400 000 sont nées dans l'Hexagone, premier foyer de cette diaspora en Europe. Elle est concentrée principalement dans la région parisienne, autour de Lyon, et dans la région marseillaise. À Marseille même, un habitant sur 10 est d'origine arménienne.
Alors l'immigration arménienne s'est établie en France par vagues successives. Dans la plus grande remonte aux années qui ont suivi le génocide, les survivants des massacres sont arrivés par la Méditerranée, après un périple par la Grèce, le Liban, la Syrie. Est-ce qu'il y a encore des témoins directs de ces événements tragiques?
La dernière rescapée en France, Ofsana Serabian Kaloustian, est morte à Marseille l'année dernière, à l'âge de 106 ans. Cette dame, très active au sein des associations arméniennes, espérait de tout cœur pouvoir assister aux cérémonies du centenaire. Hélas, ce ne sera pas le cas.
Alors le centenaire du génocide, puisqu'on en parle, on l'a entendu dans votre reportage, résonne de façon particulière pour tous les jeunes franco-arméniens qui s'engagent à leur tour pour la cause arménienne.
Oui Laurent, les enfants et les petits-enfants des rescapés ont vécu sous le poids de cette histoire tragique. Pour la troisième génération et les suivantes, le fardeau est moins lourd à porter, mais la blessure reste ouverte. Et comme me l'ont dit et répété les Arméniens rencontrés à Marseille, elle ne pourra pas se cicatriser tant que la Turquie n'aura pas reconnu le génocide et réparé les crimes et les spoliations.
Alors, la Turquie non seulement ne veut pas reconnaître l'existence en 1915 d'un plan ordonné de destruction des Arméniens, mais en plus elle nie carrément le génocide. Comment lutter contre ce négationnisme ?
Dans les années 70, face à ce déni turc, les organisations arméniennes ont mené plusieurs actions armées d'une extrême violence. Après cette période appelée « décade terroriste », la revendication a pris des voies plus politiques. Les générations d'aujourd'hui sont réalistes. Elles n'espèrent plus grand-chose de l'État turc. En revanche, elles attendent beaucoup de la société civile turque, qui ne se satisfait plus des mensonges officiels et qui se pose de plus en plus de questions. Les Arméniens de France regardent donc toujours avec beaucoup d'attention en direction de la Turquie.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter bien évidemment sur
RFI.fr.
Anna Piekarek, merci beaucoup.
RFI, la sélection du monde.